RFI 23h à Paris, une heure de moins en temps universel.
24h en France.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette demi-heure consacrée à l'actualité française.
Charlotte de Rouen.
Emmanuel Macron a appelé à ne rien céder face à l'antisémitisme ce lundi à l'occasion des commémorations du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Cette forte hausse du chômage en France sur fond de difficultés économiques, plus 3,9% sur le dernier trimestre 2024. 5,5 millions de personnes n'ont pas d'emploi, les jeunes sont particulièrement concernés. Dans ce journal également, les trafiquants de cocaïne qui ne cessent de s'adapter pour faire entrer la drogue en France. Les morgues des hôpitaux publics marseillais saturées en pleine pandémie de grippe. Et puis, une parenthèse jazz avec la sortie du dernier opus de Macha Garibian.
RFI.
C'était le plus vaste camp de la mort du régime nazi, commémoration ce lundi des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau par l'armée rouge de l'URSS. Plus d'un million de personnes, pour la plupart juives, ont été tuées dans ce camp. Pour manipuler les corps, une fois morts, les Allemands avaient constitué des groupes parmi les déportés, des groupes chargés de faire disparaître ces cadavres. Ils s'appelaient les Sonderkommando. Roger Fenzelberg publie aujourd'hui les carnets de son père, l'un des seuls survivants de ces commandos. On l'écoute.
Les Sonderkommando étaient amenés à disparaître régulièrement. Les Allemands assassinaient les membres des Sonderkommando pour qu'ils ne puissent pas survivre pour raconter. Parce qu'ils étaient les témoins directs de tout ce qui se passait. Donc les Allemands étaient très sensibles à cette question de faire disparaître les témoins. Mon père a eu cette chance d'être un des membres de Sonderkommando. Il y en a eu d'autres. Qui reste en vie, et qui reste en vie pendant 18 mois jusqu'au bout des Sonderkommando. Et à la fin, quand les Allemands ont senti le vent de la défaite se rapprocher, ils ont commencé à mettre à bas les crématoires pour qu'on ne retrouve plus de traces, et les crématoires ont été détruits sauf l'un d'entre eux. Et puis, ils ont recherché tous les membres survivants des Sonderkommando, pour les faire disparaître un à un.
Roger Fenzelberg, invité d'Anne Kantner ce midi sur RFI pour commémorer l'événement. Emmanuel Macron s'est rendu ce lundi matin au mémorial de la Shoah à Paris. Il a observé une minute de silence en mémoire des victimes de l'Holocauste. Et puis le président et son épouse ont participé cet après-midi en Pologne à la cérémonie internationale organisée sur le site d'Auschwitz en présence d'autres dirigeants étrangers. Emmanuel Macron qui appelle à ne rien céder face à l'antisémitisme. Le chef de l'État qui sera au Louvre demain, mardi, pour parler culture cette fois-ci, alors que la direction du musée tire la sonnette d'alarme sur le besoin urgent de travaux dans le célèbre musée parisien. Emmanuel Macron doit faire sur place une série d'annonces. Raphaël Delvolvé.
L'Élysée le rappelle, le président ne gouverne plus, mais la culture reste son domaine réservé. Cela relève de l'indépendance du pays dont il est constitutionnellement le garant. Rien d'anormal donc que ce soit lui qui annonce les travaux, leur durée, leur ampleur et les contraintes qu'ils impliqueront. L'entourage du président promet toutefois un discours en phase avec la réalité politique du moment. Face à la situation budgétaire délicate, des arbitrages étaient nécessaires et ont été faits en amont et en lien avec le gouvernement. Le montant dévoilé tout à l'heure devrait comprendre plusieurs centaines de millions d'euros pour pallier aux nombreuses avaries déplorées par la direction du musée, notamment face à l'afflux de quelques 8 millions de visiteurs chaque année. Un peu comme pour Notre-Dame de Paris, le président Macron, affaibli politiquement, a là donc un moyen d'exercer les derniers pouvoirs qu'il lui reste. Lui qui, de surcroît, a toujours eu pour ambition de démocratiser la culture. Son destin présidentiel est par ailleurs lié au Louvre. Il y avait prononcé son discours de victoire lors de son élection en 2017. Il y reçoit également régulièrement à dîner des chefs d'État, comme lors des derniers Jeux Olympiques de Paris.
Raphaël Delvolvé. Dans l'actualité économique, les annonces de plans sociaux de fermeture d'usines se multiplient ces derniers mois. Des faillites qui contribuent à la hausse du chômage en France, plus 3,9% sur le dernier trimestre de l'année dernière. Une augmentation inédite depuis 10 ans hors de la crise du Covid. Justine Fontaine. une forte hausse qui porte à 5,5 millions le nombre de personnes qui n'ont pas d'emploi du tout ou pas d'emploi stable en France. Les jeunes sont particulièrement concernés. Parmi les raisons de ces mauvais chiffres, l'inflation ou encore la fin des aides de l'État mises en place pour faire face à la crise du Covid. Et puis, l'incertitude liée au nouveau mandat de Donald Trump et à l'absence pour l'instant d'un budget. Un contexte qui n'incite pas les entreprises à investir ni à embaucher. Résultat, les faillites se multiplient dans l'industrie, le bâtiment ou encore le commerce. L'OFCE, l'un des centres de recherche sur l'économie française, anticipe 125 000 destructions d'emplois cette année. De quoi faire craindre une nouvelle hausse du chômage dans les mois à venir. Des chômeurs qui seront moins protégés qu'avant, car depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, il y a eu pas moins de 4 réformes de l'assurance chômage pour réduire la durée et le montant de l'indemnisation des chômeurs.
Justine Fontaine. 5 ans de prison ferme pour 2 trafiquants de cocaïne. Les 2 hommes de nationalité italienne avaient été arrêtés sur l'autoroute A9 en provenance d'Espagne. Ils ont été condamnés donc aujourd'hui par la justice française, alors que les saisies de cocaïne étaient rares sur l'axe routier entre Barcelone et Perpignan. Elles ont enregistré une importante augmentation depuis l'an dernier. Des saisies de cocaïne de plus en plus importantes dans l'exercice. C'est aussi ce qui ressort d'un rapport global de l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et tendances addictives. Les 3/4 de ces saisies concernent des cargaisons arrivées par bateau. Le port du Havre, dans le Nord-Ouest, est présenté comme l'une des portes d'entrée de la drogue en Europe, mais les méthodes d'approvisionnement ne cessent d'évoluer, comme l'explique Laurent Laniel, analyste à l'OFDT.
Les trafiquants, effectivement, s'adaptent relativement rapidement lorsque les stratégies des forces de l'ordre deviennent un peu trop efficaces. C'est un peu ce qui est en train de se passer avec les ports en ce moment, c'est-à-dire que ça fait plusieurs années qu'on saisit des quantités faramineuses de cocaïne dans les ports européens. En 2023, on estime à 413 tonnes, sachant que l'année précédente, elles étaient de 323. Mais ce qu'on constate plus récemment, disons à partir de 2024, c'est une diversification donc des moyens d'introduction de la cocaïne en Europe, en utilisant moins les grands ports européens comme Anvers, Rotterdam, Hambourg ou même Le Havre en France, et des stratégies alternatives, des ports moins importants, moins repérés, qui ne sont pas encore organisés pour saisir ou inspecter tout le trafic qui leur arrive. On s'aperçoit aussi que les trafiquants cachent la cocaïne de manière chimique dans des produits comme du plastique, par exemple. La cocaïne est ainsi très difficilement détectable lorsqu'elle arrive dans les ports. Ensuite, cette cocaïne-là se retrouve dans des laboratoires en Europe qui la transforment dans le produit fini qui sera vendu aux consommateurs.
Laurent Laniel, analyste à l'Observatoire européen des drogues et toxicomanie, avec Marie Casadebé pour RFI. Pas d'accalmie en vue, les inondations se poursuivent dans l'ouest de la France. Des pluies provoquées par la dépression Herminia, les cours d'eau ont atteint des niveaux sans précédent depuis 40 ans. En Bretagne, l'Ille-et-Vilaine est en vigilance rouge pour crue ce lundi et ce mardi. À Marseille, il n'y a plus assez de place pour les corps des défunts après l'épidémie de grippe qui touche le pays face à la saturation des chambres mortuaires. Un préavis de grève à court dans les hôpitaux publics marseillais. Le syndicat FO, à l'origine du mouvement, dénonce des conditions de conservation des corps non conformes et indignes. Reportage de Siam Spencer.
À l'hôpital de la Timone, à Marseille, on pourrait penser que ces grands camions stationnés à quelques mètres des urgences servent à transporter du matériel. Et pourtant, ce sont des corps qui y sont abrités, raconte Nicolas Sousse, délégué syndical Force Ouvrière.
Nous avons à la fois une chambre mortuaire pour l'hôpital et une unité de médecine légale. On a 44 places pour l'unité de médecine légale. Or, nous avons 62 corps.
Ces 18 corps en trop sont donc basculés dans la morgue de l'hôpital, elle-même déjà saturée par le pic des décès dus à l'épidémie de grippe. Résultat, il y a encore 2 jours.
On avait 8 corps qui étaient non réfrigérés.
Alors, ces systèmes D, 2 salles dédiées à la présentation des corps aux familles, ont été condamnés pour y stocker les défunts.
Ces salons de présentation dans lesquels sont entreposés les corps sont climatisés, entre 12 et 15 degrés, mais on n'arrive pas aux 4 degrés prévus pour un casier mortuaire dans les règles de l'art.
Une situation qu'il faut absolument régler.
À court terme, l'achat ou la location en longue durée d'un conteneur réfrigéré de 20 places et qui soit positionné à proximité immédiate de la chambre mortuaire.
Et à long terme, des travaux d'agrandissement de la chambre mortuaire dont la capacité d'accueil correspond à une ville de 300 000 habitants, soit à peine 1/6 de la population de l'agglomération marseillaise. Siam Spencer, Marseille, RFI.
24 heures en France.
Et c'est un rêve de gosse qui se réalise pour le chef français Paul Marcon. Il a décroché ce lundi le Bocuse d'or, le Graal de la gastronomie mondiale, 30 ans après le sacre de son père, lui aussi chef cuisinier. Il grimpe donc sur la plus haute marche du podium devant le Danemark et la Suède. Les candidats devaient notamment servir à l'assiette un mets sublimant le céleri et le homard. C'est l'une des étoiles de la scène jazz actuelle en France. La pianiste et chanteuse franco-arménienne Macha Garibian vient de sortir son 4e album intitulé Phenomenal Woman. Edmond Sadaka l'a écouté pour nous.
C'est en vivant l'expérience du jazz à New York il y a quelques années que Macha Garibian a créé son propre univers inspiré de jazz oriental et de pop musique. Sur ce nouveau disque, elle chante en 5 langues, anglais, portugais, français, arménien et aussi arabe avec Yadirati. C'est la reprise d'un titre de la flamboyante artiste syrienne Asmaan. Macha Garibian avait été primée aux Victoires du Jazz en 2020 dans la catégorie Révélation. Depuis, elle s'est produite dans de nombreux festivals aux quatre coins du monde, de Montreux à Ottawa en passant par New York, Moscou ou Pékin.
Dry bread fried eggs off to bed. Le nouvel album de Macha Garibian, Phenomenal Woman, RFI, 23h12 à Paris.
24h en France. Charlotte de Rouen.
Raconter en bande dessinée le périple initiatique d'un crapaud. C'est le pari d'Alit, publié aux éditions 2024. Cette BD fait partie de la sélection du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême qui s'ouvre jeudi. Et son dessinateur, Jérémy Moreau, est l'invité de Sophie Torlotin. Jérémy Moreau, bonjour.
Bonjour.
Votre nouvelle bande dessinée s'intitule Alit. Alors, qu'est-ce qu'un Alit ?
C'est le crapaud Alit, dont la particularité est que le mâle transporte ses œufs sur ses pattes. On l'appelle aussi un peu le crapaud accoucheur. Donc il aide la femelle à sortir son petit chapelet d'œufs et il se les entortille sur les pattes. Et il va s'occuper, il va prendre soin de ses petits œufs jusqu'à les ramener à la mare pour enfin les faire éclore.
Alors cette bande dessinée, c'est la vie, les pérégrinations d'un crapaud Alit. Pourquoi avoir choisi un individu de cette espèce comme héros de cette bande dessinée ?
Oui, la fable animalière, c'était quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps. J'avais fait une bande dessinée avant qui s'appelait Le Discours de la Panthère, où c'était un recueil d'histoires courtes. Et en fait, j'avais adoré comme ça me plonger dans des personnages animaliers. Ça me changeait des humains. Et j'aimais bien cette idée d'adopter des points de vue animaux. Par exemple, me plonger dans le point de vue d'un Bernard l'Ermite et me dire quelle histoire flamboyante je vais pouvoir lui concocter. Un oiseau migrateur, est-ce qu'il en a pas marre de faire toujours la même route migratoire, etc. Et c'était très, très rafraîchissant. Et j'avais envie d'aller vers quelque chose de plus grand, de plus flamboyant. Donc là, j'ai fait carrément 300 pages sur le crapaud. Les amphibiens, de manière générale, me fascinent parce que c'est, avec le papillon, les seuls animaux qui ont une telle transformation corporelle dans leur vie. Et ce qui m'intéressait, c'était de me dire qu'est-ce que ça fait de naître dans un milieu aquatique, de passer toute son enfance dans un milieu aquatique, et puis soudain, à l'adolescence, à l'âge adulte, on traverse le ciel et on passe dans un milieu terrestre avec que des côtes qui n'ont plus rien à voir.
Jérémy Moreau, Alit est une fable que l'on peut dire écologiste, une ode à la biodiversité. Est-ce qu'on peut même la qualifier d'antispéciste ? Au sens où, déjà, il n'y a aucun personnage humain, et en tout cas, les humains ne sont pas perçus comme étant supérieurs à tous des animaux qu'on va croiser.
Oui. C'est vrai que, en fait, la première version de l'histoire était sans humains. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, il manque quelque chose, il manque un antagonisme quelque part. On avait toute cette vie de ce crapaud qui va transporter ses œufs dans cette mare, mais il manquait quelque chose qui vient créer du conflit. Et puis j'ai trouvé cette idée de ce qu'ils appellent dans le livre, ce que les animaux appellent la létalite, et qui se trouve être une route qui vient traverser la forêt et qui est finalement une route de mort, une route qui va tuer des corbeaux, des hérissons. Et tout le défi finalement de ce crapaud, ça va être de traverser cette route pour faire survivre ces petits bébés. Alite, ça veut dire qui ne peut être délié. Et du coup, d'un point de vue d'une fable écologique, moi, ça me parlait énormément, puisque l'écologie, pour moi, c'est vraiment, au sens propre, ce qui ne peut être délié. C'est ces choses qui sont tissées les unes dans les autres, toutes ces manières de vivre. C'est l'arbre qui est mangé par l'herbivore, qui est mangé par le prédateur, qui lui-même, quand il meurt, revient à la terre. Il y a comme ça cette espèce de cycle de la vie classique qu'on a, alors que la route, elle, n'est que destructrice. Elle tue, mais pas pour recycler, pas pour se nourrir, pas pour alimenter son propre corps en énergie.
Jérémy Moreau, merci.
Merci à vous.
Jérémy Moreau au micro de Sophie Torlotin du service culture de RFI. En France, plus de 2000 enfants vivent à la rue. L'État a pourtant la charge d'assurer à toute personne sans abri et vulnérable un hébergement d'urgence. Alors à Paris, Sami Djemaoun tente de faire changer les choses à son niveau. L'avocat passe ses semaines à défendre devant la justice des familles avec enfants et sans solution d'hébergement. Il défend principalement des familles demandeuses d'asile. Dans le temps de la procédure, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est censé leur fournir une allocation journalière et un logement, mais c'est loin de toujours être le cas. Dans les faits, Marie Casadebé a suivi l'avocat dans l'une de ses nombreuses affaires devant le tribunal administratif de Paris. Reportage.
Bon, sûrement vous vous posez la question, parce qu'en fait on vous a convoqué une première fois.
Dans une petite salle d'audience mal éclairée, Sami Djemaoun donne ses derniers conseils à ses clients. Les parents de la petite Khadija viennent du nord de la Côte d'Ivoire.
J'ai demandé l'asile avec l'enfant, parce que moi j'ai été excisée. La douleur que j'ai subie, je ne veux pas que ma fille Khadija aussi prenne ça.
On a demandé l'asile depuis en avril jusqu'à maintenant, on n'a pas d'hébergement. Et c'est tout récemment en échangeant avec une amie.
Elle a dit que non, tu as le droit, puisque vous avez un enfant malade et elle a une pathologie très grave. Et la drépanocytose.
Cet ami leur conseille donc d'appeler Maître Djemaoun. 10 jours après, ils se retrouvent au tribunal.
Ouais, ils ouvrent une salle, c'est ça ?
Oui.
Et après...
En moins de 3 ans, Sami Djemaoun a saisi près de 80 fois la justice pour contraindre l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à loger des familles à la rue. L'avocat a gagné près de 70 fois. Comme souvent, l'administration a fait parvenir au tribunal un mémoire en défense, un texte expliquant sa position.
Vous avez un certificat médical qui indique que le pronostic vital de l'enfant peut être engagé à tout moment et qu'elle a besoin d'un endroit sain et stable. Et l'OFI nous dit elle a un traitement et un suivi médical, c'est bon. Tout en reconnaissant, dans le mémoire en défense, qu'elle fait partie des familles les plus prioritaires. Une famille prioritaire, c'est une famille avec des enfants, point. On ne va pas commencer à faire une hiérarchisation de la détresse.
Ce qu'on vous oppose aussi, c'est un dispositif saturé.
Mais en tout cas, les familles sont in fine hébergées. Donc ça veut dire que l'argument de la saturation que l'OFI oppose, il doit céder devant la vulnérabilité des personnes.
L'audience n'aura duré qu'une petite demi-heure. Hasard du calendrier, ce même jour, l'avocat apprend que la petite Khadija obtient le statut de réfugié. Un soulagement pour ses parents, mais aussi beaucoup d'amertume.
Il a tellement perdu le temps durant tous ces temps-là. C'est la débrouille. C'est de l'association en association. S'il y a un logement, ça va.
Merci. Au revoir. Merci pour le café.
L'OFI est condamné. 3 jours après, la famille obtient les clés d'un logement. Impossible de savoir combien d'autres sont à la rue faute d'informations sur leurs droits. Pour l'avocat, l'administration compte là-dessus.
Ils se diront sur 100 personnes, Maître Djemaoun, il va saisir pour 20, parce qu'il n'y aura que 20 qui auront eu accès à des associations, à tout un tas de dispositifs d'aide juridique. Et s'ils sont condamnés sur les 20, ils se disent, c'est pas si mal que ça.
L'OFI, contacté par téléphone, affirme que le couple avait signalé être hébergé de façon précaire chez un ami, raison pour laquelle aucune proposition ne lui a été faite. Son directeur, Didier Lesky, assure qu'un signalement de la part de la famille aurait suffi à son hébergement.
Marie Casadebé.
Le journal des Outre-mer.
Avec nos confrères de la première, c'était ce lundi, jour de rentrée scolaire à Mayotte. Bonsoir Tessa Gromann.
Bonsoir, c'était ce lundi, le jour de rentrée scolaire à Mayotte. Une rentrée en théorie pour tous les élèves de l'archipel, 6 semaines après le passage du cyclone Chido. En réalité, 44 établissements sont restés fermés en raison des dommages occasionnés par le cyclone et d'autres n'ont pas pu accueillir les élèves en raison d'une grève des enseignants. Ils réclament des garanties sur la sécurité, une augmentation de l'indexation des salaires et une prime pour tous suite au passage village de Chido. À Bandrélé, dans le sud de l'île, de nombreux profs se sont mis en grève, d'où la déception de cette mère de famille.
C'est un peu décevant en fait pour les enfants, parce qu'ils étaient contents pour la rentrée depuis tout ce temps. Et moi-même, en tant que parent, je suis... c'est décevant en fait. Il faut qu'on y ait... L'école commence en fait, voilà. Les enseignants, je peux comprendre, mais c'est ambigu pour moi en fait. Ils doivent répondre à l'appel quand je dis par rapport aux enfants.
Propos recueillis par Sonny Chamsoudine, Mayotte la première. Alors que l'on commémore le 80e anniversaire de libération des camps d'extermination, que connaissent les jeunes de cette page de l'histoire contemporaine? Histoire ravivée récemment par le salut nazi d'Elon Musk à l'investiture de Donald Trump. Nina Santi de Réunion la Première est allée poser la question à des jeunes de l'île de l'océan Indien.
Nayan, Mathis et Alexis ont 13 ans quand on les interrompt en pleine partie de basket pour évoquer les 80 ans de la libération des camps, dont Auschwitz-Birkenau.
Je connais pas.
Moi non plus, je connais pas. Non plus.
La vidéo d'Elon Musk faisant ce qui pourrait s'apparenter à un salut nazi lors du discours d'investiture de Donald Trump est elle aussi passée sur les radars. Pourtant, elle a été relayée en masse sur les réseaux sociaux et dans les médias. C'est un autre visage de leur livre d'histoire qui semble avoir retenu leur attention.
Après, je connais un dictateur.
Lequel?
Hitler. Bah, à ce qui paraît, il a tué des gens.
Une histoire qui se restreint à leur manuel scolaire seulement.
Ça date, ça va rien se passer là.
Est-ce que c'est parce que l'homme est mort que ses idées sont mortes?
Bah, encore les extrémistes bizarres là, comment les appeler.
Toi aussi, tu penses ça?
Non.
Un sujet qui divise aussi ce groupe d'adolescents.
En Nouvelle-Calédonie, la prévention contre les feux, ça ne marche pas. C'est en substance ce que dit Hubert Géraud de l'ONG environnementale WWF. On compte 1 000 000 de départs de feux chaque année sur le Caillou, avec des conséquences graves pour l'environnement. Et si les campagnes de sensibilisation ne fonctionnent pas, il faudrait donc avoir recours à des méthodes de répression. Hubert Géraud répond à Claudette Choupit de Nouvelle-Calédonie la Première.
C'est un échec puisqu'on a en parallèle de la sensibilisation quasiment pas posé de sanctions vis-à-vis des incendiaires, volontaires ou involontaires. C'est très rare qu'il y ait des condamnations. Il y en a quelques-unes, mais très très peu par rapport à 1 000 départs de feu en moyenne par an. Donc on envoie un message d'impunité. Si vous garez mal, vous avez une amende. Si vous brûlez des centaines ou des milliers d'hectares, vous ne craignez rien.
Les Martiniquais d'origine indienne peuvent désormais obtenir une carte de citoyen indien d'outre-mer. Une plateforme mise en place par le comité de tourisme de la Martinique recueille leurs demandes. Grâce à ce document, ils peuvent ainsi se rendre en Inde sans visa. Bertrand Caruge, Martinique la Première.
Pour Lucienne Velay-Virapin, qui s'est déjà rendue en Inde plusieurs fois, c'est par principe une bonne nouvelle. Reste à voir à l'usage. L'interrogation étant, est-ce que cela simplifiera pour autant toutes les démarches à faire?
Peut-être c'est une bonne chose, mais il y a beaucoup de démarches à faire. Ça demande quand même pas mal de pièces et même aussi de le présenter à la cour d'appel. Rester en aide, il y en a qui ont essayé, hein, mais après ils reviennent. Hein. Par contre, mes deux petits frères, eux, comme c'est la première génération avec leur mère, eux, ils peuvent faire la carte, c'est plus facile. Mais moi... Non, je préfère encore payer mon visa et puis y aller, de m'embêter avec faire des paperasses.
Les principaux avantages de cette carte OCI, c'est qu'elle accorde un visa de longue durée et permet la libre circulation ainsi que le droit de résidence et d'investissement et des opportunités éducatives et professionnelles. Mais pour Patrice Demoison, président de l'association culturelle Martinique Inde, attention, si elle ajoute certes une passerelle qui était attendue, cela ne doit pas pour autant servir à l'exode de nombreux Martiniquais vers le pays des ancêtres ou d'une partie des aïeux.
S'il s'agit de retourner en Inde pour revendiquer mon appartenance en tant qu'Indien, ça ne vaut pas la peine. Nous sommes des Caribéens, nous sommes des Antillais. Par contre, s'il s'agit de dire que mes ancêtres viennent de grands pays, c'est extrêmement important. Retrouver les repères de la langue, les repères du religieux, des traits culturels importants, mais toujours mettre au goût du Martiniquais parce que nous ne sommes plus des Indiens, nous sommes des métis.
Cette adresse mail de la CTM devrait aussi pouvoir servir dans les recherches généalogiques nécessaires pour l'obtention de la carte OCI.
Elle avait été la première ultramarine à représenter la France aux JO. Marlène Kangyot est morte dimanche. Elle avait 83 ans. L'athlète guadeloupéenne a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964 sur le 100 mètres haies avant de se reconvertir dans l'agriculture. Bonne soirée.
Merci Tessa Groman et bonne soirée à vous également.
Le Conseil Santé avec Sumo Assurance.
Et Caroline Paré s'intéresse aujourd'hui aux accidents cardiovasculaires avec le professeur Roland Guetta.
Professeur Roland Guetta, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes cardiologue interventionnel à l'Institut cardiologique d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Pourquoi prévenir l'hypertension artérielle? Ça reste un facteur essentiel de réduction des risques de maladies cardiovasculaires.
Mais parce que l'hypertension artérielle est le premier facteur de risque cardiovasculaire, à l'origine d'accidents vasculaires cérébraux, à l'origine de crises cardiaques. Et on sait que la mortalité est liée à ces accidents vasculaires cérébraux et à ces crises cardiaques est importante. Ça constitue une cause majeure de mortalité dans le monde. Donc lutter contre l'hypertension artérielle, c'est clairement lutter contre la mortalité cardiovasculaire.
Lutter contre, c'est prévenir et surtout dépister.
Prévenir et dépister. Et surtout que le dépistage, il est facile de l'hypertension artérielle. Il suffit juste de mesurer sa pression artérielle au cabinet ou dans une pharmacie ou soi-même à domicile pour pouvoir avoir des chiffres de sa pression artérielle. Et une fois qu'on a les chiffres de la pression artérielle, on peut savoir si on est hypertendu ou pas. Et si on sait qu'on est hypertendu en ce moment-là, on organise la prise en charge pour éviter ces accidents cardiovasculaires qui sont malheureusement le plus souvent mortels.
Et quand on est hypertendu, on n'arrête pas ces médicaments sans avis médical.
Tout à fait. Faut pas avoir peur de prendre des médicaments lorsqu'on est hypertendu, lorsqu'on est déclaré hypertendu. Les médicaments dans l'hypertension artérielle sont faits pour prévenir les accidents graves, les accidents cardiaques. Et ces médicaments sont pris sous le contrôle des médecins. Et il ne faut pas les arrêter sans avis médical.
Merci beaucoup, professeur Roland Guetta. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, on parle des maladies de la plèvre, pneumothorax, cancer de la plèvre, diagnostic et prise en charge. C'est à retrouver à 9h10 et 1h10, temps universel, et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Merci Caroline Paré. C'est ainsi que s'achève cette édition de 24 heures en France. Merci de l'avoir suivi et de votre fidélité à la Radio du Monde. Merci à Fabrice Biollet qui m'a accompagné ce soir à la réalisation. À Loïc Bussière, à la rédaction en chef. D'abord, la Bourse de Paris. De nuit.
Le rendez-vous de Wall Street.
Avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones avance de 289 points, ce qui le reconduit à 44 714. Pourtant, l'indice du Nasdaq, lui, s'effondre de 612 points et finit à 19 342. Le plongeon du Nasdaq s'explique par des dégagements massifs au détriment du secteur des semi-conducteurs. Le feu aux poudres, la présentation par la jeune entreprise chinoise DeepSeek d'un modèle gratuit d'intelligence artificielle conversationnelle qui aurait coûté une poignée de millions à développer, mais dont les performances semblent rivaliser avec des modèles américains qui coûtent des dizaines de milliards à mettre au point. DeepSeek dit employer des composants nettement moins performants, mais autorisés à être exportés vers la Chine. Le succès de DeepSeek pose la question de la nécessité de s'équiper de puces aussi chères que celles vendues par Nvidia, Broadcom, Marvel et leurs consoeurs. Les cours de ces sociétés s'effondrent de quelque 17% aujourd'hui. Pour Nvidia, fournisseur des composants les plus chers et les plus avancés pour l'intelligence artificielle, la perte de capitalisation aujourd'hui est de l'ordre de 600 milliards de dollars. L'affaire pose aussi la question de la justification des investissements massifs de Microsoft, Meta, Google ou encore Amazon dans des infrastructures ruineuses si une manière de programmer plus créative permet d'obtenir des résultats presque aussi bons. Le baril de pétrole américain rend 2% et finit à un peu plus de 73 dollars. L'euro est pratiquement inchangé à 1,0487. Le Dow Jones gagne 0,7%, mais le Nasdaq plonge de 3,1%.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Gabon, avec 3 mois d'avance sur le calendrier initial, les listes électorales sont en cours de révision et l'élection présidentielle se tiendra en avril au lieu du mois d'août. La transition se terminera-t-elle plus tôt que prévu? Nous lançons le débat.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À demain sur RFI.
RFI, la sélection du mois.
Roseau et Mélissa Lavo.
Why should I smile? Why should I smile for you? Voice once sublime, now whistle sour tunes. I had no time
Shaco the Great et Linkata.
RFI Musique.